Mobility as a service, ça change quoi dans le modèle des déplacements? Ça ne t'a pas échappé, nos modes de déplacement urbains changent radicalement à mesure que la technologie progresse, et ce n'est que le début, et ça va changer pas mal de choses pour les habitants et les habitantes des grandes villes. Grâce au smartphone, la connectivité entre les différents modes de transport est à portée de main de chacun. Les informations sur le meilleur parcours pour se rendre d'un point A à un point B, les informations sur les combinaisons possibles entre métro, bus, tramway, vélo, trottinette, taxi et VTC sont désormais disponibles à tout moment et pour tous avec des mises à jour en temps réel. Derrière, un simple déplacement multimodal se cache aussi des enjeux carbone et des enjeux business qui vont impacter le modèle des acteurs en présence. Ajoutez à cela le dynamisme de certaines startups qui comptent bien tirer leur épingle du jeu, les géants de l'Internet qui font tout pour accélérer, un zeste de réglementation, les acteurs historiques qui se réveillent en sursaut, les collectivités locales, les politiques. On n'a pas fini d'entendre parler de mobility as a service. Pour bien comprendre ce qui se cache derrière le MaaS, mobility as a service, la mobilité comme service, l'invité du podcast est Bertrand Bilou, c'est le Head of Marketing Communication chez Kizio Digital. Bonjour Bertrand.
Bonjour PPC, merci pour l'invitation.
Un grand plaisir de te retrouver une nouvelle fois, parce que tu es déjà venu, on avait parlé d'Open Transport. Pour bien comprendre, quelle est ta définition du Mobility as a Service?
Alors, comme tu disais, c'est le Mobility as a Service, il y a une connotation numérique assez forte. On a tendance à le résumer à une seule et même application qui va concentrer en fait toutes les offres de déplacement, de mobilité existantes sur un territoire. Ça va du transport public. Alors moi, je viens du transport public puisque Kizio Digital est une filiale de Keolis et de la SNCF. Mais c'est beaucoup plus large puisque ça englobe aussi la voiture personnelle, le covoiturage, l'autopartage, les trottinettes, le vélo, la marche, enfin tous les modes que tu peux imaginer et tous les modèles économiques qui vont avec. Et donc l'idée, c'est d'ultra personnaliser ces services et d'améliorer aussi plus de services pour faciliter la vie des voyageurs quand ils se déplacent sur un territoire.
La définition est assez claire. Si on parle des grands enjeux, il y en a combien finalement ces grands enjeux? Est-ce que tu peux nous en parler très, très succinctement? On creusera un peu plus après.
Pour moi, le grand enjeu, c'est la transition écologique. En fait, les déplacements, c'est une grosse partie des émissions de carbone et de tout ce qui est aussi pollution, le bruit, les particules fines. Donc, il y a quand même un gros enjeu là-dessus. Et on peut peut-être déjà améliorer nos déplacements grâce au Mobility as a Service, peut-être en limitant un petit peu l'usage de la voiture personnelle, l'autosolisme. Qui aujourd'hui crée de la congestion, une perte de temps, et aussi donc toutes ces externalités négatives en termes de écologie. Il y a aussi un enjeu, je dirais, économique, puisqu'en fait la congestion, la perte de temps, c'est aussi des points en moins de PIB. Donc plus une ville est fluide, plus un territoire est fluide, et plus c'est facile et rapide de se déplacer, d'aller travailler, de livrer les courses et ainsi de suite, et mieux c'est. Il y a aussi un enjeu économique. Et puis, il y a un enjeu social. En France, la mobilité est pas mal subventionnée. Et heureusement, j'ai envie de dire, pour permettre à un maximum de gens de se déplacer avec un coût minimum. Donc ça, c'est un point important que certaines grandes entreprises privées n'auraient pas forcément pour objectif. Donc si on ne pourrait pas prendre que des Uber et avoir des chauffeurs qui nous conduisent un peu partout. Donc ça, c'est quand même un point important pour permettre à tout le monde de se déplacer sur un territoire.
On le voit dans le Mobility as a Service, dans le MaaS, un point crucial, c'est la data. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus?
Alors, la problématique qu'on a effectivement, c'est qu'on se retrouve avec énormément de données à gérer et des données qui sont différentes parce que les offres sont différentes en fonction des modes. Parce que les formats sont différents, donc il y a aussi des sujets d'interconnexion, d'interfaçage de ces systèmes d'information, de ces données. On va venir se brancher, on va créer des connecteurs, on va venir se brancher à des API, on va récupérer des jeux de données, on va peut-être parfois passer d'un format à un autre. Donc il y a vraiment une gymnastique, un management de la donnée à opérer. Et puis il y a aussi, il faut avoir les données les plus fraîches possibles. Donc il y a un gros travail de mise à jour perpétuelle des données parce que les mobilités évoluent, il y a des accidents, il y a des manifestations, il y a des grèves. Le territoire, il n'est jamais identique à un instant T et à un instant T plus 1. faut toujours essayer d'avoir les meilleures données et les données les plus fraîches.
Alors justement, ces données, on les expose, il y a des connecteurs, des API qui pertiennent à des entreprises d'attraper en fait, ces données, d'amener des services. On parlait en tout début de ce podcast du dynamisme d'un écosystème startup. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de l'écosystème startup qui s'est monté autour du MaaS?
Alors c'est intéressant parce qu'il y a effectivement, on met beaucoup de choses derrière le mot startup, y compris l'entreprise à laquelle je fais partie, qui est The Digital, qui n'est plus une startup, qui est une PME du début de l'Internet, puisqu'on existe depuis le début des années 2000. Mais on a un fonctionnement qui ressemble un peu plus à un fonctionnement d'une startup qu'un fonctionnement d'un grand groupe. Il y a des startups, en fait, qui sont, pour moi, plus des startups, mais plutôt des scale-up. Les City Mappers, les Moovit, voilà, c'est des entreprises qui lèvent des millions de pounds, d'euros, de dollars. À titre d'exemple, Moovit s'est vendu 900 millions à peu près pendant le premier confinement à Intel. Donc, Intel est un géant américain. Et probablement que City Mapper va se revendre un jour à un autre géant américain pour aussi plusieurs millions, voire milliards. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils monétisent leur audience. Et comme ils ont de l'audience, bah, ça fonctionne bien. Et puis, il y a donc des venture capitalistes, des fonds d'investissement qui financent tout ça. Donc ça, c'est les grosses startups, ce que moi j'appellerais plutôt des scale-up, qui ont beaucoup plus de moyens que la moyenne. Et après, on a des startups un peu plus normales qui sont dans des levées de fonds entre 2 et 10 millions d'euros, on va dire. Et ce qui est déjà pas mal hein, pour faire des choses correctes dans ce domaine. Et donc là, on a un tissu européen de startups françaises et européennes qui fonctionnent bien, qui sont sur ces enjeux de MaaS et qui ont commencé un modèle économique qui n'était pas forcément le MaaS au début, qui pouvait être le covoiturage, qui pouvait être l'autopartage, et qui petit à petit bifurque, pivote vers quelque chose qui ressemble plus à une plateforme de MaaS. Et puis il y a la LOM, qui est une grande loi française qui vient aussi faciliter l'ouverture des systèmes d'information, des données autour de mobilité as a service pour aussi faciliter cet écosystème de création de valeur, de création d'entreprises, de services autour de la mobilité.
On va rebondir sur les datas. Question de Laura, elle te demande est-ce que ces données sont partagées avec les institutions pour améliorer aussi l'aménagement urbain, les transports en commun?
C'est une très bonne question, Laura, et c'est un de mes combats. pas forcément, bizarrement. Alors, les données de transport en commun, elles sont largement partagées. Il y a beaucoup de données routières aujourd'hui qui ne sont pas forcément toujours partagées. Ça commence à se faire, mais c'est vraiment le début. Et moi, je trouve que c'est pas forcément normal, puisqu'en fait, on pourrait imaginer que des véhicules qui circulent sur un territoire, la moindre des choses, ce serait que l'autorité organisatrice de mobilité, l'État, les services de l'État puissent récupérer ces données pour mieux analyser, mieux prévoir, mieux faire fonctionner aussi toute l'infrastructure physique qui est utilisée par l'automobile ou par d'autres modes de transport. Et donc ça, on voit bien aujourd'hui que c'est loin d'être des données qui sont partagées. Souvent, elles sont gardées précieusement, soit par les constructeurs automobiles, soit par certaines entreprises numériques qui travaillent sur ces sujets, soit par des aménageurs aussi. Elles existent, elles sont plurielles, hein, ces données, et elles sont très peu utilisées malheureusement parce qu'on pense que c'est un trésor de guerre.
Ce trésor de guerre, ces données, les grands acteurs internationaux, les géants de l'Internet, ils sont gourmands de ces données, ils s'en emparent, ils les prennent?
Alors, ils sont gourmands de ces données, ils ont accès à plus de données que nous, puisqu'en fait, les données des téléphones, les données GPS, elles renseignent énormément de choses. Elles renseignent en fait vos déplacements en porte à porte. Et on arrive à savoir si vous marchez, si vous êtes en vélo, si vous êtes en voiture, s'il y a un bouchon, bien sûr. Enfin, toutes ces données qui viennent de Google, de Waze, enfin, de toutes ces plateformes mondiales, elles sont assez précises et effectivement, elles seraient très utiles si elles pouvaient être mieux partagées avec les pouvoirs publics et certaines entités pour les chercheurs ou pour en faire quelque chose pour la société, en fait. C'est un petit peu le cas, ça s'est fait un peu pendant le confinement. Il y a des données qui ont été partagées par Apple, par Google sur pour bien mesurer que les gens se déplaçaient plus dans les villes. Mais c'est voilà, il y a encore beaucoup à faire pour aller sur ces terrains-là. Il y a des choses qui se font aussi avec Waze, avec certaines villes, d'échanges, ils font un troc de données, notamment le cas, je crois, du côté de Versailles et puis à Lille, de mémoire. Mais c'est encore anecdotique et voilà, ça mériterait d'être un peu plus généralisé sur les territoires.
Donc il y a les givers, les takers et puis ceux qui partagent, ouais, qui font vraiment pour de vrai. Je vais prendre la question d'Isabelle. Elle te demande, on voit aujourd'hui l'essor du vélo taf, le travail hybride et les autres changements. Comment le Mobility as a Service les prend-il en compte et comment ça s'adapte?
Alors c'est une bonne question aussi, Isabelle. Il y a un Mobility as a Service qui se met en place aussi pour les entreprises. Parce que les entreprises ont le devoir de mettre en place des plans de mobilité entreprise pour leurs salariés depuis 3 ans, je crois. Dans ce cadre-là, il y a un forfait mobilité qui est, je crois, à peu près de 400 euros par an. Et puis l'entreprise peut aussi aller un peu plus loin et dans son volontarisme pour développer des mobilités douces, pour améliorer la qualité de vie de ses collaborateurs. Ça rentre souvent dans des démarches RSE. Et on voit des entreprises qui s'investissent sur ces sujets, des startups qui travaillent sur ce sujet comme Mon Univers, comme Un Kilomètre à Pied, qui font des plans de déplacement entreprise pour aider les entreprises à passer ce cap. Donc ça se met en place et puis c'est intéressant aussi puisque effectivement ça peut se combiner avec du télétravail. Le télétravail c'est intéressant puisque c'est de la démobilité. Donc c'est le fait, on n'est pas obligé de se déplacer aux heures de pointe, certains jours dans la semaine, on peut rester chez soi et travailler correctement dans de bonnes conditions quand c'est possible, et on va pouvoir aller faire du sport, profiter un peu plus de ses enfants à midi. Donc moi je vois aussi un intérêt et je le mettrais presque dans un mix mobilité finalement, ce côté démobilité qu'on va pouvoir actionner de temps en temps.
C'est intéressant cette histoire de démobilité. Alors les grands acteurs en place, justement, ils réagissent comment par rapport à ce concept de démobilité qui finalement a de la valeur? Qu'est-ce qu'ils font?
La démobilité, je dirais que ça nous est un peu tombé dessus. On a commencé à en parler avant le confinement, mais c'était dans le cadre de la fabrique des mobilités avec Bruno Marsloff notamment et Gabriel Plassat. Mais à l'époque, c'était un petit peu grande idée qu'on partageait. Et puis, ça nous est tombé dessus avec le premier confinement. Là, on l'a subi de plein fouet. Et on a vu qu'on était capable de généraliser un petit peu plus le télétravail, de mettre un jour, deux jours, trois jours, voire cinq jours parfois. Comme ça nous a été imposé, ça a été une révolution un peu à marche forcée, mais qui a plutôt bien fonctionné. Après, il y a une connotation qui fait que c'est mal vu parce que il y a le mot dé et qui fait penser à décroissance. Et c'est vrai que c'est connoté un peu décroissance extrémiste. Mais ça l'est pas. Je pense qu'il faut le prendre comme une solution intéressante qui va aussi dans le sens de la transition écologique et qui fait partie de la mobilité. Et on n'est pas obligé d'en abuser et de rester chez soi sédentaire 7 jours sur 7.
N'en abusons pas. Tiens, Jean-Manuel te pose la question. Hyperloop, est-ce que les hyperloops ont un avenir face à la frugalité écologique demandée et après la crise du Covid? T'as ton point de vue sur Hyperloop?
Moi, je ne serais pas forcément un utilisateur de ce genre de mobilité, mais c'est toujours intéressant. C'est mon côté innovation qui ressort. Moi, je trouve ça toujours intéressant d'expérimenter, de tester et de pas aller forcément là où on est attendu. Et donc, c'est un sujet que je trouve intéressant, mais je mettrai pas des pièces, j'investirai pas forcément dessus. C'est pas dit que dans quelques années, ça permette pas d'autres innovations, d'autres idées, que ça généralise un service auquel on n'avait pas pensé. Souvent, c'est ça en fait. On met en place un mode ou une innovation, et puis on lui tord un peu le bras au fil des années, au fil des mois. Ça devient une super innovation avec un usage qu'on n'avait pas prévu à la base. Donc, je suis assez ouvert d'esprit, on va dire. Et je trouve ça intéressant. Après, c'est pas forcément. Effectivement, je suis plutôt sur des choses qui ont un enjeu écologique à moyen terme que ce genre de sujet où je le vois un petit peu moins, on va dire.
Dans les années qui arrivent, quel est selon toi le plus gros challenge auquel vont avoir faire face les différents acteurs de ce mobility as a service, de cet écosystème? Quels sont les grands challenges que tu vois pour eux?
La gouvernance, c'est quand même le point le plus important, puisque sur le papier, on veut faire travailler le public, le privé, et c'est très bien. On veut faire coopérer tout un tas d'acteurs qui n'ont pas les mêmes modèles économiques, qui n'ont pas les mêmes projets de société, les mêmes idées sur ce qu'ils veulent faire de la société. Il va falloir s'entendre, il faut un chef d'orchestre, il y en a un en France, c'est l'autorité de mobilité, l'autorité organisatrice de mobilité, c'est la qui représente en fait le service public, l'État, le service de l'État. C'est pas le cas dans tous les pays. Voilà, il va falloir trouver le bon curseur pour ne pas pénaliser non plus certains acteurs qui ont besoin de gagner de l'argent. Donc il va falloir trouver ça va pas être facile quand même. C'est un point, c'est de l'humain, c'est pas de la technique, mais pour moi c'est quand même un gros enjeu de confiance et de travailler ensemble. En fait.
Je vais rebondir sur le commentaire de Vincent. Vincent nous dit « Une étude américaine avait simulé une ville sans voiture personnelle, uniquement des voitures partagées et autonomes, sans aucune perte de service et d'usage. Les conclusions étaient sans appel. Réduction de 70% du parc automobile, réduction du nombre de places de parking nécessaires, réduction aussi et puis moins de pollution. » Ton avis là-dessus, est-ce que l'avenir et peut-être que les constructeurs automobiles travaillent déjà dans des logiques de mobilité as a service, de voitures partagées, autonomes?
Alors tout à fait, moi-même j'ai pas de voiture et je partage régulièrement ma place de stationnement avec des gens qui en ont besoin. Donc je suis un adepte de la non-possession. Je suis pas non plus un ayatollah et je comprends que dans certains cas, ça soit utile d'avoir une voiture. Mais quand on peut s'en passer, effectivement, c'est aussi bien. Et on pourrait imaginer un partage de voitures dans une même copropriété, dans un quartier, à l'échelle d'un territoire. Après, les constructeurs automobiles vont progressivement vers ce modèle. Mais c'est très difficile quand vous avez vendu des milliers, des milliards de voitures pendant des années, de couper votre vache à lait et... passer directement sur un modèle effectivement plus frugal, vous allez produire moins et vous allez vendre des services et gagner votre vie différemment. Et donc c'est quand même un modèle compliqué. Ça arrive progressivement, mais on voit encore beaucoup de publicité pour vendre des SUV qui sont pas les véhicules les plus écologiques. Et on n'est pas encore dans ce modèle-là malheureusement. Mais pour moi c'est le bon modèle et par exemple, GetAround pose des voitures électriques dans les gares. Super pratique. Prenez le train, vous avez votre voiture qui vous attend et vous faites la suite de votre week-end avec votre voiture électrique. Vous la redéposez à la gare, vous reprenez le train. C'est comme ça qu'il faut imaginer sur les premiers, les derniers kilomètres, peut-être le véhicule, une voiture. Et puis, il faut essayer de covoiturer. Il faut essayer d'être plus d'une personne dans le véhicule parce que on va déplacer un poids qui n'est pas négligeable. Plusieurs tonnes, c'est oui, faut toujours se poser la question de l'usage et de l'impact que ça a sur la planète et sur la société.
Ça sera le mot de la fin. Merci infiniment, Bertrand, pour ta présence ce matin. Toujours aussi passionnant. Il y a beaucoup de choses à découvrir toujours dans ce Mobility as a Service et dans cet Open Transport. Mille merci à toi. On aura le plaisir de te réinviter dans un prochain épisode. Merci aussi à toi d'avoir participé, d'avoir posé des questions pendant le direct sur LinkedIn. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast sur ta principale plateforme de balado. Oui, jusqu'ici, ça fait un bien fou. Mille merci aussi. On se retrouve demain matin, on va parler... Ouh là là, on fait un combo demain, on vous prépare quelque chose de formidable. On va vous parler de GPT-3 et d'OpenAI. Voilà, vous allez me parler, c'est du chinois. Eh bien, on va vous donner toutes les clés sur ces modèles de langage. On va vous expliquer ce que ça permet de faire et puis... jeudi, un deuxième épisode juste à la suite pour vous expliquer les cas d'usage. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces nouvelles technologies, avec ces intelligences artificielles qui sont à portée de main de chacun d'entre nous. Voilà, on se retrouve demain matin, 7h30. Mille merci à vous tous d'avoir été présents et à très très vite. Surtout, ne lâchez rien. Ciao, 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 ciao.